Panorama.
Panorama.
République tchèque.
Muriel Blev est historienne à l'Institut Ludwig Boltzmann de Vienne. Auteur de « Une déstalinisation manquée », Tchécoslovaquie 1956, elle vient de publier avec Berthold Molden, du même institut, une étude de micro-histoire sur les habitants de deux villages frontaliers entre l'Autriche et la République tchèque. La frontière passe au milieu de la rivière, les reflets de l'histoire dans la perception des habitants de Gmünd et de České Velenice. C'est le titre complet de ce nouvel ouvrage, présenté le 16 avril dernier au Sénat. On écoute Muriel Blev au micro d'un clair velluire.
Le titre de l'ouvrage, c'est la pancarte d'avertissement qu'on trouve à la frontière entre la République tchèque et l'Autriche, là où nous avons fait notre enquête. Et cette pancarte dit, attention, la frontière passe au milieu de la rivière, parce que la frontière est une petite rivière. Donc c'est en fait aussi une façon de rappeler avec humour qu'il y a deux mondes de part et d'autre de la frontière, bien qu'en fait il n'y a plus de frontière puisque les deux pays sont dans Schengen.
Alors c'est un livre qui est écrit par deux historiens. Vous êtes historienne, j'imagine que Berthold Molden est historien aussi. Et en même temps, on n'a aucune chronologie sous le titre du bouquin par rapport à un livre d'histoire classique. Alors de quoi s'agit-il ?
C'est partiellement fait exprès qu'il n'y a pas de chronologie. Ça parle de la période communiste et post-communiste, mais justement pas à travers une césure en 89. C'est fait exprès puisqu'on parle des mêmes gens avant et après 89 et justement du point de vue de la continuité et non pas du point de vue de la rupture.
C'est un travail d'histoire orale, c'est basé essentiellement à partir d'entretiens que vous avez fait dans ces deux villages d'un côté et de l'autre de la frontière tchèque et autrichienne. Sur quoi porter ces entretiens ?
Les entretiens portaient sur leur vie, comment c'était d'habiter à la frontière d'un régime capitaliste sous 89, c'est-à-dire donc à la frontière du rideau de fer. Et comment ils ont vécu le démantèlement du rideau de fer et comment c'est d'habiter à la frontière aujourd'hui et comment ont évolué leur perception du voisin autrichien.
Alors quels sont les enseignements les plus significatifs que vous avez tirés de cette recherche ?
Les enseignements les plus significatifs, c'est que ce n'est pas 1948 qui est le point principal de référence, c'est 1918. C'est-à-dire que tout est déterminé non pas par le rideau de fer, la guerre froide ou l'opposition entre capitalisme et communisme, mais par 1918 et l'opposition vraiment nationale entre les Autrichiens et les Tchèques, la formation de la Tchécoslovaquie, la victoire historique des Tchèques sur l'Empire autrichien. Et en fait, České Velenice, c'est resté un avant-poste de la tchéquité, si on peut dire, dans la région. Et ça a été vécu comme ça, même après 45, je dirais même peut-être surtout après 45, étant donné que le pays avait été occupé par les nazis, étant donné que les Allemands des Sudètes ont été expulsés, y compris de la ville de České Velenice. En d'autres termes, ça veut dire que le régime communiste a parfaitement récupéré, suscité, voire instrumentalisé le nationalisme tchèque au profit du régime communiste. La Tchécoslovaquie a vaincu l'Autriche en 1918, elle a vaincu à nouveau l'Autriche en 1945, et donc Česká Velenice, c'est une ville qu'il fallait défendre contre les Autrichiens, et ça a été perçu comme ça, y compris sous le régime communiste. Ce qui fait que le régime communiste a réussi à convaincre les gens de garder la frontière, donc de participer à sa politique, non seulement de garde de frontière, mais du coup de dénonciation de quiconque ne garderait pas la frontière, ce qui a fait entrer les gens dans cette logique de dénonciation et de répression, en fait. Ce qui fait qu'en fin de compte, ce qu'on voit bien, on voit peut-être plus facilement à ce niveau local qu'au niveau national, c'est que ce sont les gens eux-mêmes qui ont participé à la politique de répression, en fait.
C'est aussi une étude qui va enrichir la connaissance qu'on a du régime communiste tchécoslovaque en soi.
C'est en fait une vision d'histoire sociale par opposition à l'histoire politique. Et donc si on regarde la vie non pas du point de vue des régimes, du parti, des élites, mais du point de vue de la population, vue d'en bas, de comment ça se passait au niveau micro-historique... Là, on voit que les choses sont beaucoup plus compliquées, que c'est pas les bons contre les méchants, que tout le monde est bon et méchant à la fois, que il n'y a pas que des motifs méprisables dans le comportement des gens, que même la dénonciation parfois a ses raisons, qui aujourd'hui nous paraissent peut-être mauvaises, mais qui à l'époque ne paraissaient pas si mauvaises. En tout cas, c'est plus compliqué que ce qu'on dit. Et surtout, on voit bien que ce sont les mêmes gens avant 89 et aujourd'hui. Or, avant 89, c'est un régime qui était très dur dans cette ville, puisque c'était une ville frontière, donc très surveillée, très policée. Et aujourd'hui, ce sont des gens qui sont extrêmement agréables. Et pourtant, c'est les mêmes gens. Et pourtant, avant 89, ils étaient tous détestables. Donc on voit aussi que il y a une logique de ce régime, en fait, dans le comportement des gens.
Est-ce que c'est difficile de faire parler les gens de cette période ?
C'est difficile, ouais. Surtout, ce qui est difficile, c'est de les faire parler de la collaboration. Parce que les gens ne veulent pas donner l'impression qu'ils sont eux-mêmes délateurs, en fait. Ils ne veulent pas dénoncer les choses telles qu'elles étaient. Donc, en fait, voilà, ils gardent le silence. Et, c'est à la fois pour ne pas se comporter comme on se comportait sous le communisme, mais aussi pour ne pas se dénoncer eux-mêmes, puisqu'ils ont quand même tous participé à ce régime. Donc, c'est vraiment très dur pour eux de... À partir du moment où ils admettent que vous n'êtes pas là pour profiter d'eux ou pour les salir, mais pour comprendre comment ça se passait, des gens commencent à parler, quoi.
Alors c'est un livre un peu miroir puisqu'on a la partie l'autre côté de la frontière, la frontière autrichienne, sur le village de Gmunds, qui a été écrit par votre collègue Berthold Molden. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de son travail à lui?
Ben Berthold avait moins dans l'idée de, pour lui, il n'y avait pas d'intérêt à écrire d'histoire au quotidien du communisme. Par contre, ce qui l'intéressait, c'était la mémoire de la guerre froide. Pour une ville que les Autrichiens appellent parfois le Berlin de la Waldviertel, de la région de Waldviertel, parce que la ville de Gmunds et de Tchaïkovalnitsé, avant 1918, ne formait qu'une seule ville. Et elle était coupée en deux par une nouvelle frontière. Et donc, son idée à lui, c'était de voir si les gens s'étaient perçus eux-mêmes comme participants à l'histoire de la guerre froide, en fait. Et ce qu'il a trouvé, c'est que, pas tellement, que la guerre froide, c'est quelque chose d'assez éloigné, de quelque chose d'abstrait, plutôt à Berlin, où les gens ne se reconnaissaient pas vraiment. Mais par contre, ce qu'il a trouvé sans le chercher, c'est une longue mémoire du nazisme dans cette région. Et une mémoire du nazisme qui n'est pas tellement digérée ou retravaillée. C'est-à-dire que les gens sont incroyablement pas prêts à réfléchir sur leur passé, quoi, en fait. On reste dans les vieux clichés. L'Autriche est martyr, des méchants tchèques. C'est totalement incompréhensible de savoir pourquoi les Allemands des Sudètes ont été expulsés en 45. C'est d'une méchanceté sans nom. Donc on est toujours dans un esprit très revancheur, en fait, envers les Tchèques.
Une dernière question. Je vais essayer de décrire un petit peu la photo de la couverture, qui est une série de statues de tête, de statues dans un grand champ. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer qu'est-ce que cette photo, pourquoi vous l'avez choisie et qu'est-ce qu'elle exprime?
C'est une photo de Abel Libansky qui s'appelle La frontière dans les têtes. Et ce sont des bustes de Édouard Beneš, donc le président qui a le plus promulgué l'expulsion des Allemands des Sudètes. Et en mettant cette lignée de bustes en rase campagne, dans un champ, il entendait représenter la frontière symbolique qui reste dans les têtes entre les Allemands et les Autrichiens, les Tchèques et les Autrichiens, bien que la frontière ait officiellement disparu. Il n'y a plus de frontières, les deux pays sont dans Schengen, mais Beneš reste comme un symbole de la division, en fait, entre les deux peuples. Voilà, c'était l'idée de la photo de la couverture.